J'avais une pensée ce matin qui me venait pendant la louange. Une personne se sent oubliée, peut-être parce que cette personne passe par des moments difficiles et il y a comme des pourquoi dans sa vie. Pourquoi Dieu? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi cette situation? Pourquoi je galère autant? Et puis, il y a cette pensée qui m'est venue, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu travaille dans le secret de ton cœur, il ne t'a pas oublié. Des fois, il faut transformer nos pourquoi en un mot, en pourquoi, pour quelle raison je traverse cette difficulté? Est-ce que j'ai besoin d'être qualifié pour en vue d'un service, en vue d'une mission? Et des fois, l'épreuve sert à façonner notre cœur pour qu'on soit qualifié pour entrer pleinement dans notre destinée. Alors des fois, il faut savoir transformer nos pourquoi en un seul mot, en pourquoi, c'est-à-dire pour quelle raison. Voilà, j'avais cette pensée, peut-être pour quelqu'un ce matin. Est-ce que vous connaissez le syndrome de Takotsubo? Le syndrome de Takotsubo, tu connais? Oui, ça sonne un peu asiatique. Ouais. C'est bien vu. Le syndrome de Takotsubo, ou oui? Ah oui? Bon, ben, peut-être ça va parler alors à cette personne, puis à d'autres. Le syndrome de Takotsubo, plus communément appelé le syndrome du cœur brisé, a été découvert dans les années 1990. Alors, ce syndrome du cœur brisé, en fait, intervient après un traumatisme, un choc émotionnel. Ça peut être un tremblement de terre, une séparation, la perte d'un être cher. Voilà, donc il y a un choc émotionnel profond, une guerre, voilà, un traumatisme qui vient fracturer le cœur, fissurer le cœur. En fait, il y a un gonflement du côté gauche du cœur qui fait qu'ensuite le cœur a du mal à pomper le sang. Et ceux qui souffrent de ce syndrome-là décrivent en fait des symptômes proches de l'infarctus. Alors j'ai voulu regarder un petit peu ce que dit la parole par rapport au cœur. Et puis il y a beaucoup de versets hein, qui parlent du cœur. Et j'ai choisi ce matin ce verset: Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc c'est dans le Proverbe 4. Au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Alors, je ne sais pas à vous si vous êtes parti ce matin de chez vous, vous avez fermé vos maisons, les portes de vos maisons à clé, je suppose. C'est mieux, hein, on dit. On garde nos maisons. Alors, certains prennent un chien pour que la maison soit encore mieux gardée. Donc voilà, on fait attention de bien garder nos biens matériels, nos maisons, nos voitures aussi. Hein. Certainement que vous avez fermé votre voiture pour que personne vienne un petit peu voler ce qu'il y a à l'intérieur. On garde nos voitures, on prend soin de nos voitures dans le sens où bah, tous les 2 ans, on doit faire une révision. Je sais pas, sauf pour les voitures neuves. Les voitures neuves, on peut attendre 4 ans, mais après, tous les 2 ans, il faut faire une révision. C'est obligatoire. Donc ça, on prend bien soin de le faire. Puis, ça nous viendrait pas à l'idée de conduire avec un bruit très douteux de grincement ou de un bruit dans le moteur. Tout de suite, on irait chez le garagiste pour faire les réparations. Hein. Donc, on prend soin comme ça de nos affaires. Et est-ce qu'on prête la même attention à notre cœur? Voilà. Est-ce qu'on se pose en disant mon cœur, comment tu vas ce matin? Comment tu vas? Comment tu te sens? Quel est ton état? C'est important, hein? Si on prêtait la même attention qu'on prête à nos affaires matérielles, à notre cœur irait beaucoup mieux. Alors le verset dit garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est notre responsabilité, hein? Des fois, on crie à Dieu, Seigneur, Seigneur, change mon cœur. Et lui, il répond, garde ton cœur. Donc, il a sa part à faire, et puis nous, on a notre part à faire. Et en vous voyant ce matin, je me dis qu'en fait, vous avez certainement passé beaucoup de temps devant le miroir à vous coiffer, certaines à vous maquiller, à vous apprêter, parce que vous êtes beau. Et est-ce qu'on prête autant d'attention parfois à notre cœur, à ce qui est à l'intérieur ? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, pour illustrer un petit peu tout ce qu'on peut, l'attention qu'on peut porter à notre cœur, je vais vous parler des 5 blessures du cœur. Les spécialistes, les psychologues, mais tous les spécialistes s'accordent pour dire qu'il y a principalement 5 blessures du cœur. Et on est tous confrontés à un moment ou à un autre à ces 5 blessures. Alors à des degrés différents, à des moments différents de notre vie, on sera tous confrontés à l'une ou plusieurs des 5 blessures que je vais énumérer. La première blessure, c'est la blessure du rejet. Alors on a été créé pour appartenir à un groupe, pour être intégré dans un groupe. Alors ça commence dans la famille, mais après ça commence plus tard dans un réseau. On est des êtres sociaux pour être avec les autres, et d'où la dimension communautaire de l'Église est là pour que chacun se sente intégré et à l'aise pour servir Dieu. Mais des fois, quand on est rejeté, eh bien, ça vient comme créer une blessure à l'intérieur de nous. Et cette blessure, en fait, sur le dessin, je l'ai matérialisée par un trou. Une blessure, ça crée comme un trou dans le cœur, la blessure du rejet. Tu as appris qu'il y a un repas qui s'est organisé avec des amis ou avec des membres de ta famille, puis tu n'as pas été invité à le rejet. Tu as appris qu'il y a des choses qui se faisaient sans toi, la blessure du rejet. L'autre blessure, c'est la blessure de la trahison. Alors, tu as confié quelque chose à un ami en espérant que cet ami le garde pour lui, et puis tu te rends compte que d'autres sont au courant. Tu as été trahi. La blessure de la trahison. Une autre blessure, la blessure de l'injustice. Alors, celle-ci aussi fait beaucoup de ravages. Par exemple, au travail, tu fais ton mieux pour répondre aux exigences de ta hiérarchie ou de ton patron. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, quelqu'un d'autre qui vient d'arriver a été promu. Et toi, tu attends la promotion depuis des années et des années. On te l'avait même promise. La prochaine fois, ça sera toi. Et puis, tu te retrouves là, sur le carreau, mis de côté, l'injustice. Ensuite, il y a la blessure de l'humiliation. On s'est moqué de toi. Alors, en tant qu'enseignant, cette blessure, je la côtoie tous les jours dans la cour de récréation, des enfants qui viennent me voir en disant « il m'a traité de gros, il m'a traité de moche, il m'a traité de… » Bref, vous mettez tous les mots que vous voulez, peut-être des choses que vous avez entendues pour vous-même. La blessure de l'humiliation. Et pour finir, la blessure de l'abandon. Alors, celle-ci est terrible. Je repense à cette histoire récemment d'une maman de Colmar qui a traversé la France pour abandonner ses enfants en Espagne. Vous avez entendu cette histoire ? Portugal ? Oui. Elle a voulu faire un jeu avec eux, elle a bandé les yeux en disant « on va faire un jeu cache-cache », elle les a lâchés dans la forêt, et puis elle les a abandonnés. Ils ont été retrouvés par une femme. C'est terrible, la blessure de l'abandon. Comment se relever après ça ? Voilà ces 5 blessures auxquelles nous sommes tous, à un moment ou à un autre, dans notre vie, nous devons tous faire face. Tout individu au cours de sa vie est amené à rencontrer ces 5 blessures du cœur. Et si on ne traite pas ces blessures, eh bien, le problème, c'est que ces blessures vont créer des trous. Et ces trous vont laisser passer tout l'amour que Dieu déverse en nous. En fait, ces trous vont faire que son amour s'écoule. Et notre cœur ne retiendra rien, ne retient pas tout ce qu'on y met, tout ce qu'on y dépose en bonnes choses. Un cœur blessé ne retient pas l'amour de Dieu, les sourires des autres, les paroles valorisantes. On a besoin de tout ça pour se nourrir et pour que notre cœur soit rempli. Mais un cœur blessé et troué est un cœur qui ne peut garder l'amour qu'on lui donne. Et finalement, on devient comme des passoires. Alors, les passoires, c'est important, c'est utile quand on veut laver des légumes, laver des patates, des poireaux, essorer du riz, des pâtes. Mais on ne peut pas, l'eau qu'on y déverse ne reste pas, donc on ne peut pas stocker des choses dedans. Un cœur troué ne permet pas aux graines d'amour qu'on y sème de prendre racine et de pousser. Et si ce qu'on sème dans un cœur ne peut prendre racine et l'eau qu'on y déverse ne peut rester, eh bien tout ce qu'on y met sèche et ça devient comme finalement des fleurs séchées. Il y a quelques années, moi j'avais un peu ce cœur en passoire. Pour ceux qui connaissent pas mon histoire, je suis le fruit d'un spermatozoïde qui a profité d'un préservatif défaillant pour finir sa course. Voilà, donc j'étais pas voulu. Je l'ai appris dans mon enfance, vers l'âge de 10 ans, et j'avais quand même ce sentiment de j'avais pas la place dans ma famille, je ressentais pas beaucoup d'amour, mon père était violent, et quand j'ai compris que j'étais pas vraiment désiré, c'est venu comme creuser ce sentiment de pas appartenir à ma famille, ce sentiment de pas être désiré, ce sentiment d'être rejeté, donc j'avais une grosse blessure de rejet. Et vous savez, on se construit avec cette identité-là, et c'est dur de trouver sa valeur, de trouver sa place dans le monde quand on apprend qu'on n'a pas été désiré. Donc, mais il y a une solution. La première étape, quand on a ces blessures, bah tout d'abord, c'est de les identifier ses propres blessures, c'est-à-dire de réussir à mettre des mots, M-O-T, à nos mots, M-A-U-X. Identifier nos blessures, les reconnaître, mettre des mots, et puis faire face. La deuxième étape, c'est de traiter nos blessures. Alors, traiter nos blessures, c'est-à-dire peut-être être accompagné par un responsable, par un frère, par une sœur, qui va nous accompagner dans ce chemin de restauration de notre cœur brisé. Reconnaître nos maux, reconnaître nos blessures, mettre des mots dessus et puis être accompagné, traiter nos blessures. Alors, traiter nos blessures, c'est pas juste mettre un sparadrap dessus et puis continuer. Hein. C'est pas juste, voilà, Seigneur, ouais, j'ai vu que j'avais une blessure de rejet. Alors moi voilà, je prie pour ça, puis j'avance et puis ça ira. Non, des fois ça met beaucoup de temps, parfois beaucoup de larmes. Et il est nécessaire parfois d'être accompagné. Alors être accompagné, ça veut pas juste dire j'en parle une fois et puis après on prie et puis tout est réglé. Hein. On a besoin d'inviter Jésus dans les profondeurs de notre cœur pour qu'il nous aide à faire ce travail de restauration. On a besoin d'inviter Jésus et d'inviter le Saint-Esprit qui nous montre, qui nous accompagne, qui nous montre la marche à suivre. Ça peut être un travail long, ça peut être un travail difficile, mais vous savez, c'est nécessaire. Jésus veut venir dans les profondeurs de notre être, dans tous les recoins de notre cœur blessé afin d'y opérer sa guérison. Invitons Jésus dans nos blessures. Invitons le bon berger, celui qui nous connaît, celui qui nous a façonnés et celui qui sait comment colmater les brèches, comment boucher les trous. Invitons le bon berger dans notre relation d'aide. Oui, parce que être accompagné, c'est bon. Certains parlent de cure d'âme. Bon, ça c'est un mot un peu ancien, mais aujourd'hui on parle de relation d'aide, mais c'est la même chose. C'est accepter l'idée que notre cœur a besoin de restauration et que accepter l'idée qu'on peut pas le faire tout seul. Des fois, il y a des blessures qui sont tellement profondes qu'on a besoin d'une tierce personne. Et moi, j'aime bien dire qu'on est tous des cœurs en convalescence. Seulement, on n'en est pas au même endroit dans la guérison, au même stade dans la guérison. Mais on a tous un cœur en convalescence parce qu'on a tous, à un moment donné, rencontré une des blessures, voire plusieurs. Alors, le risque de juste mettre un sparadrap et puis d'avancer, c'est qu'en fait, notre cœur n'est pas restauré, notre cœur n'est pas libre. Et quand le cœur n'est pas libre, libéré, quand il n'est pas restauré, eh bien, cela peut... les mauvaises choses, vous savez, les mauvaises pensées, les mauvaises choses peuvent pourrir. Vous voyez, les blessures qui ne sont pas guéries, qui n'ont pas été restaurées, elles peuvent faire que votre cœur peut pourrir, laisser pourrir des mauvaises choses. Donc tu nourris des rancœurs, des jalousies, tu nourris des convoitises, ce qui amène au péché, et nous savons que ce qui conduit au péché mène à la mort. Il y a ce verset de Matthieu 15, 19 qui dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur que viennent toutes ces choses. » D'où l'idée de prendre soin de notre cœur pour qu'il soit restauré et pour qu'il ne soit plus comme... une passoire, mais qui devienne comme un vase qui est capable d'accueillir l'eau et qui garde l'eau qu'on y déverse. Et du coup, ce vase peut désormais accueillir l'amour de Dieu et garder l'amour, les sourires qu'on lui donne, les paroles valorisantes, les gestes affectueux, tout ça, ça vient comme remplir ce vase, ce réceptacle, donc ça vient remplir nos besoins affectifs. Et quand on est comblé et que le vase est plein, il y a aucun souci, on peut déborder sur les autres. C'est pas grave si ça déborde, ça va déborder sur les autres. Et quand on déborde sur les autres, eh bien, alors non seulement tout ce que l'amour que Dieu nous donne, les paroles valorisantes, les sourires, ça vient comme fleurir notre vie, mais comme on est plein, on est rempli, bien on va déborder sur les autres pour fleurir la vie des autres. Donc si notre cœur est restauré comme ce vase, eh bien on peut contribuer à la guérison du cœur des autres. Une fois guéri, on peut contribuer à la guérison du cœur des autres. C'est le projet de Dieu pour ta vie. C'est le projet de Dieu pour notre vie, être restauré pour être des outils de restauration pour les autres. Aimer de Dieu pour pouvoir aimer. Aimer de Dieu pour pouvoir aimer de manière saine. C'est ce que dit le verset dans 2 Corinthiens au verset 1. Vous savez, on a été restauré, on a été restaurés dans nos difficultés pour être nous-mêmes des instruments qui vont participer à la restauration du cœur des autres. Si quelqu'un le verset, on peut le prendre, je ne l'ai pas noté, j'avais juste en tête, de Corinthiens 1. Alors, garder son cœur, Garder son cœur, c'est le garder près du cœur de Dieu. Parce que les sources de la vie dont parle ce verset, c'est bien Jésus. Jésus, c'est la source. Et on peut lire dans Jean 7 au verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » De son sein, ça veut dire de son cœur. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et moi, je suis toujours inspiré par ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont payé le prix. J'aime bien écouter des messages sur le net de personnes qui ont été vraiment brisées et qui ont été restaurées. Je peux citer juste là Joyce Meyer, par exemple, qui a été abusée durant son enfance, pendant plusieurs années, par son père. Et donc, il y avait une blessure profonde dans le cœur, mais qui a laissé Dieu, qui a laissé Jésus colmater cette blessure, soigner cette blessure. Et c'est extraordinaire parce que cette femme qui était blessée, une fois restaurée, elle bénit des milliers de personnes, hommes et femmes à travers le monde. C'est une femme qui a un ministère d'encouragement. Elle a fait de sa misère son ministère. C'est-à-dire qu'elle a transformé ses misères. Elle a laissé Dieu éclairer, soigner son cœur pour en faire maintenant son ministère. Alors, une fois qu'on est restauré, une fois que notre cœur s'est transformé, donc n'est plus une passoire, mais un vase prêt à accueillir tout ce qu'on y déverse, eh bien, on peut aimer les autres, on peut donner aux autres tout ce que Dieu met dans notre cœur. Et puis, par contre, il est nécessaire de faire un check-up régulier. Un check-up, comme on fait un check-up tous les 2 ans de nos voitures. Eh bien, c'est nécessaire régulièrement de se poser, même si on a guéri nos blessures, de se poser avec son cœur, de dire alors mon cœur, est-ce que tout va bien? Parce que des fois, vous savez, la guérison du cœur, il y a des circonstances qui peuvent faire réapparaître certaines choses. Hein, et quand je dis qu'on est tous des cœurs en convalescence, c'est-à-dire que les choses peuvent être guéries. Mais des fois, il y a des circonstances de nos vies, une difficulté particulière, une parole qu'on entend qui viennent comme raviver certaines choses. Alors, ça ne veut pas dire que la guérison n'a pas eu lieu, mais ça veut peut-être dire qu'il y a encore un petit travail en profondeur. Parce que Jésus, c'est un gentleman. Il nous fait pas aller plus vite que ce qu'on est capable. Des fois, on guérit certaines dimensions à un certain niveau, mais parfois, les années passent et puis on a peut-être encore un petit check-up à faire, quelque chose d'encore plus profond. Et c'est nécessaire de s'arrêter de temps en temps, et surtout dans l'Église, puisque si on est tous un cœur en convalescence, c'est-à-dire que dans l'Église, c'est quoi? C'est l'assemblée de personnes qui en chemin dans leur histoire, en chemin dans leur guérison. Alors avec des personnes plus ou moins avancées. Et c'est normal que des fois, comme on se frotte les uns aux autres, c'est normal que des fois, on peut se blesser, on peut être blessé ou blesser les autres. Voyez ? D'où l'idée de faire un check-up. Si une parole m'a blessé, se remettre devant Dieu, mais Seigneur, pourquoi ça m'a blessé ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois encore régler ? Ben, montre-moi. Montre-moi, puis on va faire ce travail de restauration. Voilà, faire un check-up pour questionner notre attitude, nos paroles et nos motivations. Est-ce que mes motivations sont bonnes? Pourquoi je fais telle ou telle chose? Ah, ça c'est intéressant de se poser la question. On est pris dans un service et puis des fois, il est nécessaire de se questionner. Est-ce que je l'ai fait toujours dans une bonne motivation? Alors pour ma part, quand j'étais à Rennes, il a fallu que je m'arrête un an ou deux. J'étais au service de la louange, je conduisais la louange. Et puis à un moment, je faisais les choses avec une mauvaise motivation. Parce que j'avais pas réglé certaines choses. Donc, alors je sers le Seigneur, j'aimais Dieu. Mais au fond, j'avais besoin encore d'être reconnu, qu'on reconnaisse qu'il y avait des choses en moi intéressantes parce qu'on ne me l'avait pas assez dit. Et puis, du coup, je faisais mon service pour Dieu, mais au fond, quand les gens ne venaient pas me féliciter à la fin ou m'encourager, je disais, oh, Seigneur, j'ai fait tout ça. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de fruits, quoi. voyez, mon cœur était, voilà, il avait besoin encore d'être soigné, la blessure du rejet, d'être encore colmaté. Donc je me suis mis de côté pendant un an ou deux, j'ai réglé ce problème-là, et puis je suis revenu à la louange quand j'estimais que c'était réglé. On a besoin, de temps en temps, de faire un check-up, de s'arrêter pour sonder nos motivations. Pourquoi je fais telle ou telle chose? Est-ce que je l'ai fait toujours avec une motivation pure devant Dieu? Ça, c'est un exemple que je vous donne, mais globalement, c'est vrai que, comme l'a témoigné Anne, des fois, on peut servir, on peut s'affairer dans l'église et puis porter des masques, faire comme si de rien n'était, enfin, comme si tout allait bien. Mais au fond, il y a des blessures qui sont criantes. Alors, ça peut se manifester de différentes façons. Hein. J'ai donné tout à l'heure des exemples des blessures dans le monde séculier, dans le milieu du travail, mais dans l'église, le rejet. Le rejet. Tu fais quelque chose, tu fais de ton mieux, mais personne te le dit. Vraiment, tu te plies en 10 pour faire plaisir aux gens, pour rendre service, pour et puis au final, personne t'encourage. Il y a peut-être cette blessure encore du rejet qui fait que tu as été rejeté, et puis tu fais les choses. Alors oui, tu les fais pour Dieu et tu les fais pour les autres, mais tu as quand même besoin qu'on vienne te reconnaître, te dire voilà, c'est bien ce que tu fais. Alors c'est important hein, de s'encourager, je dis pas, hein, il faut, et on a besoin d'un encouragement des autres, mais il faut pas faire les choses pour être encouragé, pour être valorisé, hein, vous voyez. Mais ça alors l'encouragement, moi je dis pas, je attention hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il faut encourager, il faut qu'on s'encourage, ça c'est notre part. Mais si je fais quelque chose pour être encouragé, c'est là qu'il y a un problème. Hein. D'accord ? Hein, il faut quand même qu'on ait ce don d'encouragement dans l'Église. Mais ne faisons pas les choses pour courir après un besoin de reconnaissance. Voilà, c'est ce que je veux dire. Notre exemple, par exemple, pour la justice, tu travailles dans l'ombre, tu visites les personnes, tu fais du bien aux personnes, et puis quelqu'un qui vient de nulle part ou qui vient d'arriver, il fait quelque chose, et puis hop, il récupère toute la gloire dans le sens où tout le monde l'encourage, c'est génial ce qu'il fait. Et puis toi, t'es là, tu dis, mais moi je travaille depuis des années dans l'ombre, mais personne ne le voit. Personne ne vient me dire, vient m'encourager. Et ça, c'est une forme d'injustice. Mais Dieu voit ce que tu fais en secret. Et puis, laissons Dieu rendre justice. Continue à travailler dans l'ombre. Même si on ne te le dit pas, Dieu le sait. Et un dernier exemple, par exemple, la trahison, t'as confié à quelqu'un une difficulté pour qu'on prie pour toi, et puis tu pensais que la personne allait rester discrète. Et tu te rends compte qu'en fait, toute l'Église est au courant. Bon, je pense pas que ce soit le cas ici, mais je vous dis des exemples qui fait que dans l'Église, on peut être blessé et on peut blesser sans le vouloir. Parce que peut-être qu'en confiant la difficulté de notre frère ou sœur, on veut bien faire. On veut comme faire participer les autres à un élan de prière, mais au fond, on blesse la personne parce que la personne ne voulait pas forcément qu'on parle de son problème. Et c'est comme ça qu'on vient nourrir des blessures, qu'on le veuille ou non. Mais Jésus nous dit, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Alors si vous voulez, on peut poser notre main sur le cœur, ce qu'ils veulent. Et puis, on peut demander à Dieu de nous aider ce matin à peut-être à mettre en lumière une des blessures mentionnées et qui nous montre, qui nous conduise aussi dans un moment. Saint-Esprit, tu nous montres s'il y a encore quelque chose qui n'est pas réglé. Quelque chose qui viendrait expliquer pourquoi à chaque fois dans telle situation, je me sens comme offensé, je me sens comme blessé. Ouais, Saint-Esprit, que tu viennes parler au cœur ce matin. Tu vois tous ces cœurs qui sont là pour te servir, qui sont là pour t'aimer. Il y a parfois des circonstances qui empêchent de recevoir tout l'amour que tu nous donnes et tout l'amour des frères et sœurs, parce qu'il y a comme ce trou qui laisse s'échapper l'amour, et l'amour coule au lieu de rester. C'est comme toutes ces personnes qui, on a beau leur dire « Oh, tu es précieux, tu as de la valeur », mais ces personnes ne l'entendent pas et ne le comprennent pas ou ne le reçoivent pas parce qu'il y a trop de trous dans le cœur. Elles sont incapables de recevoir ce qu'on leur donne, ce qu'on leur dit. Mais Seigneur, ce matin, je te prie de mettre à la lumière tous ces trous dans les cœurs et te prie que toi, le bon berger, tu puisses venir boucher ces trous comme tu sais si bien le faire. Toi, tu prends soin de chacune des personnes qui sont ici. Tu connais leur cœur, tu connais les difficultés rencontrées, les souffrances. Et tu dis, je ne t'ai pas oublié. Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé. Je ne t'oublie pas. Dans la difficulté que tu traverses, je prends soin de toi. Alors, tu ne le vois peut-être pas au quotidien, mais je suis là à tes côtés. J'envoie toujours un soutien par un frère, une sœur, une parole, un message, un verset. J'envoie toujours quelque chose pour te montrer que je suis là et que tu n'es pas seul dans ta barque. Ta barque est dans la tempête. Eh bien, tu n'es pas seul dans ta barque, il y a Jésus dedans. Alors, reçois cette parole ce matin. Jésus est à tes côtés et il prend soin de toi. Il prend ta situation en considération. Amen.